sur Radio Valois-Mulsien 93.7, page d'histoire. Nous continuons de feuilleter le livre de Pascal Lenoir, Sorcières, brigands et criminels en pays d'Oise et Picardie. Nous voici au chapitre 2, Rieux de Pierrefonds, suivi par La harangue du sieur de Rieux, extrait de la satire Ménipée, et La capture et l'exécution de Rieux de Pierrefonds dans les souvenirs historiques et archéologiques de la forêt de Compiègne, Edmond Cayette de Hervilliers. Avant-propos. Disons-le d'emblée, ce livre n'a pas l'ambition d'étudier la criminalité du passé sous l'angle statistique, psychologique, sociétal, sociologique ou autre. Sa seule et plus humble ambition est de présenter un certain nombre d'affaires criminelles qui se sont toutes déroulées ou ont toutes débuté dans l'espace géographique du département de l'Oise ou, plus largement, de la Picardie. Cette chronique historique débute à la fin du XVIe siècle avec l'affaire Jeanne Hervilliers, qu'on accusa d'être une sorcière, et se termine avec l'affaire Landru, un des plus fameux tueurs en série de notre histoire, guillotiné le 22 février 1922. Délibérément, nous n'avons pas voulu aborder la période contemporaine, pourtant fertile en malfaiteurs, criminels et assassins, par refus d'une certaine forme de sensationnalisme qu'ont déjà exploité, avec plus ou moins de réussite, d'autres écrivains et journalistes. Pour autant, le lecteur curieux trouvera dans les chapitres qui suivent de quoi amplement satisfaire son goût de l'histoire, comme des faits divers, bien que cette expression ne remonte qu'à l'année 1863. À travers les funestes destins de ces personnages, dont certains sont bien oubliés aujourd'hui, c'est toute l'histoire du peuple qui se dessine. Ces petites gens, longtemps absents du récit national, sans qui les grands hommes seraient de stature plus modeste. Nous n'avons rien imaginé, mais tout inventé, au sens où nous avons trouvé nos informations en puisant aux meilleures sources documentaires, livres, mémoires, journaux d'époque et, bien entendu, archives. Pour mieux illustrer nos propos, nous avons convoqué quelques célèbres plumes de notre littérature, Madame de Sévigné, Alexandre Dumas, Jules Michelet, et choisi des extraits de la presse au moment des faits. Dans la galerie des portraits des grands criminels, certains noms demeurent plus connus que d'autres. La Brinvilliers et les Cartouches, Bonneau et autres Landru sont restés, avec l'aide intéressée de la littérature puis du cinéma, fameux. On les verra en action dans notre région, ce qui est moins attendu. Quant aux autres, moins illustres, les Rieux, Balafre, Maupetit, on découvrira leurs tristes méfaits qui n'ont rien à envier dans l'horreur au précédent. Tous répondent parfaitement à cette définition de Denis Diderot, La religieuse, 1760. Citation : S'il importe d'être sublime en quelque genre, c'est surtout en mal. On crache sur le petit filou. Mais on ne peut refuser une sorte de considération à un grand criminel. Son courage vous étonne, son atrocité vous fait frémir. On prise en tout l'unité de caractère. » Fin de citation. Cette fascination pour les criminels se retrouve aussi dans une des lettres qui compose le livre de Nicolas Edmé Rétif de la Bretonne, 1734-1806, la paysanne pervertie. Citation. Je préfère le sort d'Hérostrate, qui, pour immortaliser son nom, incendia le fameux temple d'Artémise à Éphèse, de Cartouche ou de Mandrin, à celui de quelque honnête homme obscur, mort avant d'avoir cessé de vivre et parfaitement nul aujourd'hui. Mais il faut bien l'avouer, aujourd'hui plus qu'hier, la plupart des crimes de sang passent inaperçus, tout particulièrement à notre époque d'information permanente. Aussitôt annoncés, ils disparaissent dans un oubli d'où on les tire rarement. Jadis, les colporteurs des foires déclamaient et chantaient les exploits des assassins. Cette prestation, à mi-chemin du spectacle de rue et de l'information sauvage, se terminait par la vente de canards, feuilles volantes comportant un court extrait, un court texte présentant les faits et une illustration naïve de ces mêmes faits. Ils étaient souvent édités localement et diffusés dans les jours qui précédaient l'exécution du coupable. Bientôt, la presse nationale et régionale, le théâtre, puis le cinéma, la radio, la télévision et enfin les médias électroniques prendront, chacun à leur tour et à certaines époques simultanément, la relève. La forme changera, mais pas le fond. Nous ne pouvions passer sous silence les attaques de diligence par les bien nommés bandits de grand chemin et les attaques des bandes de chauffeurs, les hommes noirs qui écumèrent les campagnes picardes, notamment durant la période troublée du directoire et du consulat. Pendant des siècles, les routes furent peu ou pas sûres. À la tombée de la nuit, les voyageurs préféraient se mettre en sécurité en faisant halte dans quelque auberge accueillante qui, parfois, se révélait un coupe-gorge comme l'auberge rouge de Peyrebeil. Nous abordons aussi des sujets plus politiques, comme les aventures de l'anarchiste cambrioleur Alexandre Marius Jacob, que beaucoup ont considéré comme le modèle du personnage d'Arsène Lupin, créé par Maurice Leblanc, même si, à notre avis, cela ne correspond aucunement à la vérité. La personnalité et les aventures d'Alexandre Marius Jacob se révélant, à bien des égards, bien plus surprenantes que celles prêtées au gentleman cambrioleur par son créateur. Au fil des pages, on constatera que les agissements criminels des femmes et des hommes n'ont guère changé au cours des siècles et les réactions de la population face à ces mêmes agissements n'ont pas, eux aussi, connu de grandes transformations. Jusqu'au XIXe siècle, la violence demeure très présente dans la vie quotidienne des Français, en particulier dans les classes populaires. Néanmoins, il faut bien constater qu'en France, depuis plusieurs siècles, la criminalité est en constant recule, l'amélioration du niveau de vie, la réduction des inégalités sociales, quoi qu'on en dise, l'instruction et les progrès de l'investigation policière ont fait reculer les crimes de sang. La société actuelle les accepte de moins en moins et ce rejet s'étend maintenant jusqu'aux faits délictueux, autrement appelés incivilités. Notre époque ne réclame-t-elle pas la tolérance zéro ? Mais quittons notre 21e siècle et ses problèmes pour nous transporter au temps des sorcières, des soudards, des vagabonds, des mendiants, des coupeurs de bourse, des tire-laines, des vides de gousset, des malandrins, des brigands, des bandits, des gibiers de potence et des fendeurs de naseaux. Chapitre 2, Rieux de Pierrefonds. À Pierrefonds, le château que nous connaissons n'est pas celui qui a vu les exploits de Rieux. En le restaurant, ou plutôt en le réinventant, terme qui paraît plus conforme, Viollet-le-Duc en a assuré la pérennité. On ne peut pas en dire autant des événements dont cette forteresse fut le théâtre. C'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de sortir de l'oubli un des plus fameux épisodes que connut le château de Pierrefonds. En 1591, Henri IV, en pleine reconquête de son royaume, chargea le duc d'Épernon de prendre les deux forteresses de La Ferté-Milon et de Pierrefonds qu'occupaient les troupes de la Ligue, ennemi juré du Béarnais. La seconde de ces places était sous les ordres de Rieux, dont l'abbé Carlier, qui sera de nouveau notre guide pour ce chapitre, fait, dans son histoire du duché de Valois, la description suivante. Citation. « Sans foi, sans loi, sans humanité, ce partisan réunissait toutes les qualités guerrières qui servent à former un grand capitaine. Il avait acquis l'expérience des armes au milieu des dangers, au risque de sa vie. Après avoir passé ses premières années dans l'obscurité, il avait trouvé le secret d'obtenir un emploi dans les vivres. Il amassa quelques sommes dans cet état et, comme il avait une inclination décidée pour la profession des armes, il a pris la guerre et se fit partisan. » Fin de citation. Ayant vainement tenté de prendre La Ferté-Milon, le duc d'Épernon se dirigea vers Pierrefonds, pensant sans doute y trouver des défenses plus fragiles et un chef moins habile. Il dut vite déchanter. Rieux, dont la réputation de chef de guerre n'était pas encore faite, l'attendait de pied ferme. D'abord, obscur fournisseur aux armées, Rieux offrit, nous l'avons dit, ses services à la Ligue. Il y fut d'autant mieux accueilli qu'il ne demandait ni argent ni soldats, mais la permission d'exercer son talent sur les terres et sur les personnes des royalistes, avec telle troupe qu'il lui plairait de choisir, comme le rappelle l'abbé Carlier. Il s'entoura de tout ce qui se trouvait de bandits, de scélérats échappés du supplice dans tout le canton, gens déterminés par l'espérance du butin et de l'impunité. Cette troupe grossit en très peu de temps et forma une petite armée. À partir du château de Pierrefonds, Rieu entreprit de mettre en coupe réglée toute la région, ne se limitant pas aux partisans du roi Henri, mais dévastant indistinctement tout ce qui passait à sa portée et tuant au passage tous ceux qui s'opposaient à lui. On le rencontrait partout à la tête de ses gens, surtout sur les grands chemins où il attendait les passants et les voitures publiques pour les piller, dit l'abbé Carlier. Au besoin, Rieu n'exerçait pas seulement sa férocité sur les inconnus. Il n'hésitait pas à faire périr certains de ses complices, probablement d'une manière radicale, de maintenir un semblant de discipline dans cette troupe de gens sans aveu. La satire Ménippée, 1594, du nom d'un cynique grec célèbre pour ses railleries, en dessine un portrait dont on peut penser que, pour caricatural qu'il apparaît, il retranscrit la vérité de ce personnage qui fait penser, par bien des côtés, au père Ubu qu'inventera Alfred Jarry bien plus tard. Libelle satirique, la satire Ménippée a pour sujet la tenue des États généraux convoqués par le duc de Mayenne à Paris le 23 janvier 1593. Celui-ci, chef de la Ligue, hostile à Henri IV, a pour intention d'élire un roi catholique. Ce texte, le plus fameux pamphlet de cette fin du XVIe siècle, est une œuvre collective. Un des passages, intitulé « Harangue du sieur de Rieu » montre à quel point ce chef de guerre était rapidement devenu célèbre. Il est qualifié dans l'introduction de cet ouvrage d'un des plus ridicules orateurs de la satire, l'individu lui-même étant désigné comme un matamore. Nous avons reproduit en annexe le texte auquel l'abbé Carlier ajoute en commentaire, ce discours, quoique ironique, fait sentir combien était énorme le pouvoir de ce brigand et combien on le redoutait dans la contrée. Mais Rieu n'était pas seulement un vulgaire détrousseur de voyageurs. Il allait se révéler un redoutable stratège. Le duc d'Épernon fit installer de puissantes batteries de canons autour du château et entreprit un bombardement intensif. Mais, compte tenu de la géographie des lieux, il ne put placer ses pièces, pourtant d'un fort calibre, suffisamment près pour endommager sérieusement les remparts. Rieu laissa passer l'orage. Voyant son artillerie inefficace, le duc d'Épernon décida de la rapprocher du château. Et là, Rieux se réveilla pour lors comme d'un assoupissement, l'abbé Carlier. À l'aide de ses propres canons, il démonta une à une les batteries du duc, lui tuant un grand nombre de ses canonniers. Vexé d'être tenu en échec par un vulgaire chef de bande, le duc d'Épernon revint plusieurs fois à la charge, sans aucun succès. À la dernière tentative, il fut blessé par une balle au menton et prit la décision de lever le siège. Pendant quelques jours, on crut le général d'Henri de Navarre mort. Dans un passage de son journal, Pierre de l'Étoile rapporte, citation, « Le lundi 20e du mois de mai s'éleva un faux bruit à Paris de la mort du duc d'Épernon, blessé devant le château de Pierrefonds. Monsieur de Belin, gouverneur de Paris pour la Ligue, et les princesses assuraient cette mort et disaient en avoir eu certains avis. Mais les nouvelles arrivées sur ces entrefaites de la prise de Dourdan par le roi, on jugea incontinent ce bruit semé à dessein pour une de nos emplâtres ordinaires, car à peu de jours de là, d'Épernon ressuscita à Paris et cette grande mort devint une égratignure. » Fin de citation. Cette victoire donna des ailes à Rieux. Les ligueurs le réclamaient partout pour les seconder. Redoublant de férocité, il parcourut la campagne avec sa troupe, ne reculant devant aucun forfait. Quelques nouveaux exploits vinrent conforter sa réputation de chef de guerre. Alors qu'Henri IV, en personne, assiégeait Noyon, il réussit un coup de main audacieux. Pour renforcer la garnison des ligueurs, il entra dans la ville à la tête d'une troupe de 500 cavaliers, portant chacun, en croupe, un fantassin. Cette prouesse prolongea le siège de 3 semaines, mais n'évita pas que la ville négocie finalement sa reddition. Le roi Henri accorda son indulgence aux soldats de la place, mais pas à Rieux. Ce dernier dut, dit-on, sauter la nuit par-dessus le rempart et se glisser subrepticement dans les fossés, ayant au préalable enfilé un déguisement. Par des chemins détournés, il revint au château de Pierrefonds et reprit ses rapines. Pour tenter de réduire définitivement Pierrefonds, Henri IV décida d'envoyer de nouvelles troupes commandées par le maréchal de Biron. Ce second assaut n'eut pas plus de succès que le premier. Les batteries du maréchal avaient à peine fait une décharge que Rieux les foudroyait de son artillerie et les démontait. Le maréchal, voyant qu'au lieu d'avancer, il perdait beaucoup de monde et qu'il n'y avait aucun moyen de terminer l'entreprise, leva le siège, rapporte l'abbé Carlier. Enfin, au début de l'année 1593, Rieux échafauda un plan pour s'emparer de la personne même du roi Henri IV. Par quelque indiscrétion, il apprit que le roi allait à Compiègne rendre visite à sa maîtresse du moment, la belle Gabrielle d'Étré, marquise de Monceau. La réputation amoureuse du Vert-Galant est parvenue jusqu'à nous. Le capitaine de Pierrefonds décida d'organiser une embuscade pour le capturer sur la route du retour. À la tête d'une troupe de 500 cavaliers, le duc d'Aumale, un des chefs de la Ligue, s'empressa de lui prêter main forte. L'histoire de France aurait pu prendre une autre tournure si un brave paysan qui marchait à travers bois pour échapper précisément aux sbires de Rieux n'avait entendu le pas des chevaux de ce fort détachement et aperçu à travers le feuillage les éclats des armes. Pensant avoir affaire à l'avant-garde d'une armée se dirigeant vers Compiègne pour prendre par surprise la ville dont la devise est « Au roi et au royaume la plus fidèle », l'homme courut porter la nouvelle. On le conduisit devant le roi, qui, tout d'abord, ne voulut pas le croire. Pour vérifier le récit de l'homme, Henri IV envoya deux cavaliers qui ne revinrent pas. On supposa qu'ils avaient été tués ou faits prisonniers. Quelques habitants de Compiègne, connaissant bien la forêt, partirent à leur tour et confirmèrent, à leur retour, ce qu'avait dit le villageois. À son grand déplaisir, le Vert-Galant dut écourter sa romance et s'éclipsa par une route détournée de nuit pour Senlis. Ce fut le premier échec de Rieux et le début de la fin pour lui. Plusieurs auteurs ont affirmé que Rieux assista aux états du royaume qu'avaient organisé les chefs de la Ligue. En réalité, il semble qu'il n'y participa pas. Cette réunion avait pour but d'abolir la loi salique qui donnait prééminence à l'héritier mâle de la couronne de France, afin de substituer au roi IV l'infante Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne, qui descendait par sa mère d'Henri II. Cette confusion quant à sa présence parmi la noblesse de la Ligue doit son origine à un célèbre passage de la satire Ménippée dont nous avons déjà parlé. Nous reproduisons ci-après la harangue du sieur de Rieux qui brosse sur un ton ironique le portrait de cet individu assez célèbre à son époque pour être évoqué dans un pamphlet diffusé dans tout le royaume. Rieux reprit ses tristes expéditions. Ses succès lui avaient donné une confiance excessive en ses talents de guerrier. Il prenait de moins en moins de précautions et avait le sot orgueil de s'imaginer que sa seule présence eût dû mettre en fuite une armée entière, écrit l'abbé Carlier. Ses ennemis ne l'avaient pas oublié. Le commandant de la garnison de Compiègne, ayant eu vent que Rieux s'apprêtait à attaquer un convoi, envoya quelques hommes reconnaître l'endroit supposé du guet-apens. Secrètement, il rassembla le gros de sa troupe et se transporta sur les lieux. Nombreux et déterminés, les soldats compiénois finirent par encercler et capturer Rieux et ses compagnons d'armes, dont la plupart périrent dans le combat. Selon une autre version, Rieux aurait été capturé alors qu'il traversait, avec quelques-uns de ses hommes, la rivière d'Oise sur une embarcation. Il fut aperçu par des arquebusiers compiénois qui lâchèrent une salve, intimant aux bateliers qui les faisaient passer d'accoster au plus vite. On affirme que le roi Henri fut enchanté de la prise de celui qui avait eu l'audace de vouloir se saisir de sa royale personne, l'obligeant à quitter sa belle Gabrielle dans de doux moments. Il ordonna que le procès de Rieux ait lieu sans tarder. Rieux de Pierrefonds fut condamné à être pendu. La sentence fut exécutée le 12 mars 1593 à Compiègne, où l'ex-capitaine de la Ligue avait été emprisonné. Avant le supplice, il dut faire amende honorable devant l'église Saint-Corneille. Afin que nul n'ignore son exécution, sa tête resta fichée dans un poteau à la porte-chapelle de la ville. De ses compagnons pris à Pierrefonds, on en pendit 80 à Compiègne et 11 à Senlis. Après sa mort, les juristes s'opposèrent sur les raisons réelles qui avaient justifié cette condamnation. Certains affirmèrent qu'il avait été pendu en raison de ses brigandages. D'autres pensèrent que cette décision avait été justifiée par sa tentative de capture du roi Henri IV. D'autres encore estimèrent qu'en ces temps troublés de guerre civile et de guerre religieuse, Rieux ne s'était pas plus mal comporté que bien des partisans de tous bords, plus détrousseurs, soudards et pillards qu'animés de sentiments chrétiens. L'avis de l'abbé Carlier est sans appel. Nous pensons que le sujet de cette condamnation n'est pas une matière à discussion. Rieux méritait la peine du gibet comme rebelle, comme chef de parti, comme traître à son roi, comme brigand, comme assassin et comme scélérat qui prenait plaisir au crime. Voilà qui est dit. Sa terrible réputation lui survécut longtemps. Un poète contemporain de Rieux de Pierrefonds, Guillaume du Sable, mort en 1615, avait écrit en son temps, dans « La muse chasseresse », ses quatrains dénués de toute ambiguïté. Citation. « Veuve et orphelin ont passé par tes mains, manants et habitants de mes pauvres villages, tellement qu'on jugeait par les raptes inhumains qu'à toi et tes soldats, tout était au pillage. Ton père, en ce pays, était roi des voleurs, toi lui as succédé le suivant à la trace, et tu as fait comme lui connaître tes valeurs. Un bon chien volontiers chasse toujours de race. » Fin de citation. Bien après sa disparition, l'abbé Carlier signale dans son Histoire du duché de Valois, paru en 1764, que son nom, qui est encore fameux dans sa patrie, est demeuré aux habitants de Pierrefonds comme sobriquet, on nomme encore les gens du lieu les Rieux de Pierrefonds. À l'évidence, ce sobriquet historique n'était pas à l'avantage des Pétrifontains d'alors. Harangue du Sieur de Rieux, extrait de la satire Ménippe. Messieurs, je ne sais trop pourquoi l'on m'a député pour porter la parole en si bonne compagnie au nom de toute la noblesse de notre parti. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de divin en la Sainte Union, puisque, par son moyen, je suis devenu de Malotru, commissaire d'artillerie, gentilhomme et gouverneur d'une belle forteresse, Pierrefonds. Mon avancement n'est pas encore à son terme. J'ai l'espérance de m'égaler au plus grand seigneur, en montant plusieurs degrés, à reculons ou autrement, pour arriver au comble de la fortune et au terme d'une vie glorieuse. Allusion à la potence. J'ai bien sujet de vous imiter, monsieur le lieutenant, puisque tous les pauvres, prêtres, moines, gens de bien et dévots catholiques vous comblent de félicitations et vous apportent des chandelles comme à un saint Maccabée du temps passé. C'est pourquoi je me donne au plus vite des diables, que si aucun de mon gouvernement s'ingère à parler de paix, je le courrai comme un loup gris. Vive la guerre ! Je vois certains nobles qui parlent de conserver la religion et l'État tout ensemble. Ils disent que les Espagnols perdront à la fin l'un et l'autre si on les laisse faire. Quant à moi, je n'entends point ce langage, pourvu que je lève toujours les tailles et qu'on me paye bien mes appointements. Peu m'importe que deviendra le pape. J'ai des intelligences à noyon. Si je viens à bout de le prendre, je serai évêque de la ville et des champs. Cependant, je courrai la vache et le manant. Et il n'y aura paysan, laboureur ni marchand autour de moi, 10 lieues à la ronde, qui ne me paye taille ou rançon. J'ai de jolies inventions pour les mettre à la raison. Je leur donne le frontal de cordes liées en cordelière. Je les pends sous les aisselles. Je leur chauffe les pieds d'une pelle rouge. Je les mets au fer et au cep. Je les enferme dans un four ou en un coffre percé que je mets dans l'eau. Je les pends en chapon rôti. Je leur donne les étrivières. Je les sale, je les fais jeûner, je les attache étendus dans un vent. Bref, j'ai 1000 gentils moyens, tours de souplesse et inventions pour tirer la quintessence de leur bourse et avoir leur subsistance pour les rendre bellitres à jamais, eux et leur race. Qu'on ne me parle ni de point d'honneur, ni de naissance. Je me mets peu en peine de pancartes et de titres, ni des armoiries timbrées et non timbrées. Je veux être vilain de 4 races, pourvu que reçoivent toujours les tailles sans rendre compte. Je n'ai point lu les histoires, mais j'ai ouï conter à ma grand-mère, lorsqu'elle portait son beurre au marché, qu'il y avait eu anciennement un Gaston de Foix, un comte de Dunois, un Lahir, un Potron de Saint-Traille, un capitaine Bayard, qui avait rage pour ce point d'honneur. J'en suis fort aise. Quant à moi, j'ai bon fusil, bon pistolet, bonne épée. Et il n'y a ni sergent, ni prévôt des maréchaux qui n'osent ajourner. La justice n'a pas de droit sur les gentilshommes comme moi. Je prendrai la vache et les poules de mon voisin, quand il me plaira. Je dépouillerai ses terres sans qu'il ose en grommeler. Je ne souffrirai point que mes sujets payent taille, sinon à moi. Qu'avons-nous besoin de ces financiers qui s'engraissent en la substance du peuple? Par la morbleu, si je trouve un sergent, receveur, homme de justice, faisant exploit sur mes terres, je lui ferai manger son parchemin. Sommes-nous pas libres? Monsieur le lieutenant et monsieur le légat, ne nous ont-ils pas permis de tout faire, de prendre tout le bien des politiques, de tuer et assassiner parents, amis, voisins, pères, mères, frères, sœurs, pourvu que nous y faisions nos affaires, sans jamais parler de paix ni trêve? S'il faut élire un roi, je vous prie, messieurs, de ne pas oublier mes mérites. Il s'en est fait de pire que moi. Les Lydiens, dit-on, en firent un qui menait la charrue. Les Flamands firent un duc qui était brasseur de bière. Les Normands, un cuisinier. Les Parisiens, un écorcheur. Je suis plus que tous ces gens. Mon père était maréchal de France. Si jamais vous me choisissez, je vous laisserai faire tout ce que vous voudrez. Je supprimerai tout sergent, procureur, conseiller, commissaire. On ne parlera plus d'ajournement, saisie, exploit, crier, exécutoire, ni même de payer ses dettes. Vous serez tous comme rats en paille et il suffira que m'appeliez sire. La capture et l'exécution de Rieux de Pierrefonds par le souvenir historique et archéologique de la forêt de Compiègne, Edmond Caliette d'Hervilliers. Donc, mais ce célèbre aventurier touchait au terme de ses exploits. Depuis longtemps, la garnison de Compiègne cherchait à donner au roi les moyens de se défaire du châtelain de Pierrefonds. Elle épiait Rieux, qui, étourdi de ses succès, pillait audacieusement les coches et les voitures. Dans sa confiance arrogante, il traversait un jour la forêt de Compiègne avec une faible escorte. Il allait sans doute piller de pauvres paysans ou rançonner un malheureux village. Quelques hommes d'armes attaquent sa troupe. Il se défend avec bravoure et se croit déjà vainqueur. Mais un corps nombreux vient soutenir les assaillants. Sa bande est bientôt enveloppée et massacrée. deux amis fidèles lui restent, ses lieutenants de Brouilly et de Mangevin, se battent à ses côtés et le couvrent de son corps. Beau dévouement qui n'a pas même assuré leur célébrité dans l'avenir. Après des prodiges de valeur, Rieux reste seul, semble chercher la mort, qui fuit devant lui. Enfin, il est obligé de remettre son épée. Le but de ses ennemis est atteint. Il le mène, vivant, mais enchaîné, dans cette ville de Compiègne qu'il avait si souvent menacée. Le lendemain même, on le jugea comme régicide. Miron, maître des requêtes de l'hôtel du roi, le condamna à la peine de la hart. Le châtelain fit, avant sa mort, amende honorable au portail de l'église Saint-Corneille en criant « Merci à Dieu et à la justice !» Puis il fut pendu devant l'hôtel de ville et par raffinement de barbarie ordinaire à l'époque, sa tête séparée du tronc fut fichée au bout d'un poteau sur la porte La Connétable ou Porte-Chapelle. Chaque habitant put y venir contempler la tête de l'ennemi de la ville et du roi. C'était Page d'Histoire, lu dans l'ouvrage de l'Association des Deux Montagnes, Association d'Histoire et de Patrimoine à but non lucratif, reconnue d'intérêt général. Sorcières, brigands et criminels en Pays d'Oise et en Picardie, signé Pascal Lenoir. Dans ces pages, il est question de la Ligue, autrement dit la Sainte Ligue, mouvement catholique fondé par le duc de Guise en 1576 pendant les guerres de religion pour lutter contre les protestants et empêcher le futur Henri IV protestant de devenir roi de France, accompagné par la marche funèbre de Chopin, orchestre philharmonique de Londres, sur Radio Valois-Mulsien 93.7.